Les séminaires du Collège de France.
C'est un grand plaisir de vous présenter Éric Falipeau à mes côtés, puisque c'est le verbe de la journée. Je vais vous raconter comment on s'est rencontrés. Dans la préparation des leçons et dans la préparation des séminaires, l'importance de la métaphysique était évidemment très centrale, enfin comme celle pouvait être celle de la guerre ou comme sera plus tard celle de la consolation qui viendra plus tard ou celle du réel rapport à ce qu'on pourrait appeler la métaphysique, et on en parlera peut-être tout à l'heure. Il fallait que je rencontre quelqu'un qui puisse me correspondre, on va dire, avec qui je pouvais avoir le sentiment d'avoir quelqu'un avec qui je pouvais avoir la nature des conversations que je pouvais avoir avec François, une espèce d'errance dans la parole, soit à la fois très savant et pas savant du tout en même temps. J'ai cherché longuement et il y avait une figure qui pour moi était importante, c'était la figure d'Henri Corbin. Parce que François le lisait beaucoup et il me l'avait fait lire et j'avais découvert à travers les textes de Henri Corbin une compréhension que je n'avais jamais eue auparavant de cette question du métaphysique. Et on parlera peut-être aussi de Henri Corbin. Mais toujours est-il que dans un des livres de Henri Corbin qui m'avait été offert par une assistante, quelqu'un qui avait été son assistante, Marguerite Cardoche. Et Marguerite m'avait offert un livre qui s'appelle Corps spirituel et terre céleste. Il y a une préface. Il y a une préface dans ce livre. Et comme j'ai vraiment beaucoup de difficultés à lire ce genre de livre, je lis les préfaces, parce que les préfaces peuvent être parfois des entrées qui peuvent nous permettre d'avoir des clés pour rencontrer ce qu'on va lire par la suite. Alors cette préface m'a vraiment saisi, dans le sens où elle fait trois pages, 3-4 pages, elle a des notes en bas de page et des notes à la fin du volume. Or, les notes sont plus longues que la préface. Et les notes renvoient à un monde qui m'a fait... j'ai pas arrêté de lire... les notes renvoyaient à une bibliographie, j'ai pas arrêté de lire les livres de ces notes, j'ai presque pas lu le livre, mais j'ai lu la préface et je l'ai lu, je l'ai décortiqué et je voulais absolument la comprendre. Il y avait parfois des mots que je n'arrivais pas à comprendre, que je ne connaissais pas, donc c'était d'aller regarder dans le dictionnaire chaque mot, revenir et refaire le travail. Vraiment c'est vraiment un travail de chercher des aiguilles dans une botte de foin. C'est-à-dire chaque mot passer, ne rien laisser passer au niveau de la compréhension. Je voulais tout comprendre de cette préface. Et en cherchant, je m'étais dit, ah mais tiens, peut-être la personne qui a écrit la préface. Donc je regarde le nom, Éric Falipeau. Alors je cherche, nulle part Éric Falipeau, introuvable. Et finalement, vraiment en m'acharnant, je finis par trouver une adresse mail à laquelle j'envoie un message en expliquant un peu ce dont il est question. Et je reçois une réponse. Et la réponse était de la nature de la préface. C'est-à-dire, d'une certaine façon, chaque message que je recevais me demandait un travail de déchiffrement exceptionnel et extraordinaire. Et c'est quelque chose qui me rendait vraiment profondément heureux, parce que au-delà de tout ça, il y avait dans les messages que je recevais une véritable générosité d'amitié, d'expression du bonheur de la rencontre qui était exprimée vraiment franchement et clairement. C'est des mails très longs. Très 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 long et merveilleusement long, parce qu'ils me permettent de plonger, je ne peux les lire qu'à certains moments de la journée. Et un jour on s'est rencontrés et la rencontre a été à l'image de ce que je lisais. Et après, ben, il s'est posé la question, voilà, est-ce que vous accepteriez de faire ce séminaire autour de la question de la métaphysique? Mais je ne savais pas comment nommer la chose. Est-ce qu'on va parler de la métaphysique? Est-ce qu'on va parler de Corbin? Est-ce qu'on va parler de tout ce dont il a été question au cours des messages envoyés avant la rencontre ou d'autres choses? Et un peu comme avec François, je comprends à peu près, je prends à peu près, mettons, 15% de ce que Eric peut me dire quand on se voit. Mais parce que l'essentiel n'est pas nécessairement tout à fait dans la compréhension du sens, mais il est aussi dans autre chose. On écoute parfois à travers les mots, comme on écoute à travers la pluie, on passe à travers les choses, comme un paysage brouillé par la pluie, mais on le voit et la pluie le rend encore plus beau. La vapeur de la pluie, il y a quelque chose comme ça entre compréhension et incompréhension. Donc, voilà. Alors, je vous présente donc Eric Falipou, qui est orientaliste et ethnologue, professeur en langue et culture du monde. Il est docteur en anthropologie des religions et il a écrit, entre autres, 7 préfaces que vous pouvez trouver dans la nouvelle édition du Corps spirituel et terre céleste de Henri Corbin. Alors, sans plus attendre, je lui laisse la parole et puis un merci d'avoir accepté de faire ce chemin jusqu'à nous.
Bon, merci pour cette présentation, Vashti. Je suis étonné qu'elle ait fait sortir personne encore, parce que comprendre 15%. Donc je m'étonne qu'après une pareille présentation, le vide ne se soit pas fait. En fait, il ne s'est pas fait du tout, même le vide, et j'avais espéré qu'il se fasse un peu. Bon, mais c'est dommage, oui, mais c'est non pas que j'ai une prédisposition particulière pour les rangs clairsemés, mais le vide est quelque chose qui me fascine. En ceci que je n'ai jamais trouvé le vide vide de sens. Un exemple. Imaginez ce que cela aurait pu être pour moi que de parler devant une grande salle vide. Fascinant, non? Et si vous parvenez à l'imaginer, vous touchez déjà du bout des doigts ce que peut être un écrivain, par exemple, ouais, je dis, écrivant dans une petite pièce pleine que de lui-même. Et si pleine que celui n'est peut-être pas lui, parce qu'il en déborde autre chose que lui. Voyez-vous le tableau d'un conférencier, contraint devant une salle vide, d'observer ce vide, dans le fond des yeux, pour être bien en mesure de réajuster sa conférence à la mesure de ce vide. Eh bien, immanquablement, alors, notre conférencier chute dans le vide. Sa parole y est entraînée, dissoute. L'oralité l'avale, il ne sait plus ce qu'il dit, il dit ce qui n'est pas, et un miracle se produit. Il s'appelle la création. Seulement, notre conférencier est le seul à y assister. Le seul encore, si lui-même est bien présent à lui-même, qui sait ? Le vide est si contagieux. Et puis, quand la salle se vide de ce vide, notre conférencier se retrouve et fulmine qu'on ne lui reprendra plus. Ah, désormais, se dit-il, du moins écrit-il dans son journal qu'il inaugure précisément à cette minute, désormais je vais me faire écrivain. Et pour écrire ce qu'il a entendu dans cette salle vide, il s'enferme dans une toute petite pièce pleine que dans lui-même qui est définitivement non lui. Et là, un autre miracle se produit, moindre, mais il est salué de tous, c'est ce qu'on appelle la création littéraire. Ce que je viens de vous raconter là, c'est la genèse de la culture européenne quand elle accoucha de la philosophie de Platon. Platon l'a recueilli dans une caverne, c'était sa petite pièce à lui, qu'il rendit pleine de lui-même en s'appliquant à vouloir se connaître, enfin à vouloir connaître le non-lui, autrement dit le soi. Puis ses élèves s'appliquèrent d'eux-mêmes, puis des générations de clercs, d'écoliers, de tâcherons, plus ou moins maladroitement, et des tonnes de papier à l'appui. Des tonnes de papiers qui n'ont pu recueillir qu'une infime parcelle de l'écho chu dans la caverne de l'oralité et sur la tête de Platon depuis le lointain Orient et qui s'appelle métaphysique. Non, son orateur ne s'appelle pas métaphysicien, car si le métaphysicien écrit, il écrit petitement et c'est déjà trop pour n'être pas. Son orateur véridique s'appelle le prophète qui prêche dans le désert. C'est mon modèle. Il est l'archétype du conférencier aspirant à la salle vide. Il est mon pendant dans le monde imaginal. Ce qui me permet d'un coup d'un seul de définir deux concepts clés, l'archétype et l'imaginal. Le monde imaginal est peuplé de prophètes qui prêchent dans le désert. Si vous avez la vue basse, vous appelez ça le vide. Si vous avez l'ouïe fine, vous appelez ça l'inspiration. Le drame de l'imaginal, parce que c'est un monde comme le nôtre, en perdition, tient à ce qu'il ne peut se perpétuer que si le nôtre de monde l'absorbe en partie. L'imaginal voit notre Terre comme un miroir où est semé ses archétypes, à la manière d'un jumeau là-haut, un jumeau ici-bas. Seulement, ce n'est pas le monde entier qui se trouve disposé à se laisser coloniser par un ailleurs qu'on ne sait même pas s'il existe, l'imaginal. Il y a eu néanmoins un continent privilégié pour cette sorte de deal. Il s'agit du lieu où le soleil se lève, orbite béant et omniscient dont les Grecs feront leur cyclope, car la philosophie, c'est une métaphysique rendue à moitié aveugle. Et ce lieu où le soleil se lève fascine, c'est l'Orient à midi plein, l'Orient pleinement métaphysique. Je viens de vous livrer là, quasi texto, ce qui faisait le sel de mes copies de philo en terminale. Et le désespoir du prof, ne sachant trop comment me faire taire, puisque je m'abritais derrière Henri Corbin, estampillé philosophe, qu'on le veuille ou pas, imprimé même par Gallimard. Avant moi, Corbin avait été fasciné par le mythe des jumeaux primordiaux, de l'Iran ancien, par l'image du soleil peint dans l'Avesta en œil de la connaissance où se perdre vous donne l'œil perçant, ce que de loin appellent ceux qui n'en sont pas les victimes sacrifiées, l'illumination orientale. Aussi c'était décidé, je deviendrai orientaliste. Et puisque la Mecque en France s'appelle Paris, je suis monté à Paris pour devenir orientaliste. L'année même où Wajdi quittait cette ville pour s'enfoncer plus loin dans son exil occidental, Minbari, Silla, Mintrial. Mintrial, c'est la façon arabe de dire Montréal. Mais bon, je ne suis pas devenu Henri Corbin. Je le jugeais avoir beaucoup trop écrit pour être devenu ce qu'il avait vu ou cru voir. Car l'unité de mesure du monde imaginal se mesure en cases vides. J'ai donc profité du vide qu'Henri Corbin avait laissé derrière lui pour ne pas le combler. L'oralité lui avait échappé, m'échapperait-elle? Des années après, abandonnant mon poste de professeur des langues et cultures du monde iranien à la faculté de l'Université libre de Bruxelles, je me suis dit que parler dans le vide, je veux dire dans le vrai vide, hein, pas le vide d'une salle de classe qui était souvent mon lot, serait peut-être l'idéal. Déjà, on me tenait pour un orientaliste passablement passé de l'autre côté, vendu à l'ennemi, comme disent ceux pour qui notre monde se réduit à sa seule strate politique. Alors, vendu pour vendu, perdu pour perdu, autant voir ce qu'il y a de l'autre côté du miroir de l'imaginal, là d'où les archétypes parlent du haut de leur trône vide et sublime, d'un allant qui ne s'arrête jamais, et que quelques types enfermés dans une toute petite pièce captent et tâchent de coucher par écrit, mais aussi vite que la lumière, c'est dur, et le papier n'y suffit pas. C'est pourquoi Wajdi s'est mis au théâtre et poursuit dans ses monologues le papier qui lui manque toujours et qui lui manquera toujours plus, sauf s'il se met au cinéma. N'empêche, un jour, Wajdi et moi, c'est comme ça qu'on en est venu à se rencontrer, au détour de ces deux mondes entrant en collusion. Belle pêche, lui ai-je dit quand il m'a écrit. Belle pêche, oui, c'est le mot de Zarathoustra, le Zarathoustra de Nietzsche. Et depuis cette petite pièce, Wajdi avait pris, en pleine nuit, son envol, sa canne à pêche aussi, alors que moi, je nageais dans mon océan de béatitude. Bon, je vous donne là la version archétypale de l'eau dans laquelle je stagne, car pour être bien sûr de faire le vide autour de moi, j'ai adopté pour refuge une maison dont le terrain est régulièrement submergé par les eaux de la Seine, si bien que pour la rejoindre, c'est la bicyclette ou la barque. Et ce jour-là, j'étais à bicyclette et passablement trempé. Belle pêche. Riez, oui, riez, sauf que souvenez-vous bien que dans la Bible, la loi aurait-elle été révélée à Moïse dans le buisson ardent s'il n'avait été auparavant sauver des eaux dans la petite nacelle d'où une femme et princesse le recueillit. Les eaux sont le meilleur médium de l'imaginal. Le prophète oriental le plus mystérieux, celui qui n'a pas de corps défini, s'appelle Al-Khizr, le vert. En persan, cela donne pire et sabs, et c'est une femme, une ancienne, parce qu'elle ondoie comme l'eau, d'où son genre fluctuant, et enchâsse dans les colliers versifiés des poètes autant d'archétypes qu'ils y mettent de perles. La tradition soufie va jusqu'à prétendre que le plus grand de ses maîtres, Ibn Arabi, Cheikh Al-Kbar, devint sous son influence le poète pénétrant qu'il fut. Oh, les rieurs me diront que c'est là un conte oriental plein de fantasmagories. Les rieurs sont légion en Europe, surtout en France, où on s'applique à oublier que toute création, et la création poétique plus que toute autre, parce que subtile, procède d'une création sur un plan supérieur. L'imaginal se tient moins loin qu'on ne peut l'imaginer. Je ne vais pas vous chanter Icourico le furet, mais presque. Je vous emmène juste en Autriche, quelques années en arrière, puis petite excursion en Italie. La poétesse Friederike Mayrhofer vient de quitter Vienne pour un séjour à Ferrare. Oh, pas bien grand, le saut vers l'Orient, mais néanmoins, avaler autant d'espace lui a donné le vertige. Le démon de l'écriture la prend. Mais comment se saisir de cet élan et où la coucher ? Heureusement, son démon le lui a révélé au milieu d'une grande période dont cette poétesse est coutumière. Je vais vous en donner lecture, du moins un extrait, pour la beauté du texte, mais aussi parce que je sais ce qu'il va révéler à Ouagie. Non, modeste que vous n'êtes pas seul à écrire ainsi. Tout créateur subit pareille inspiration quand elle traverse son sang en entier avant de se verser en encre. Écoutez donc Friederike Mayrhofer. Quand je me réveille dans un lieu inconnu, je fais des semblants de gestes pour écrire, qui me laissent insatisfaite. L'intention d'écrire est réprimée ou un désir est refoulé, etc. Et bien que j'aspire toujours à des espaces hauts et vastes, que j'aurais toujours volontiers habité dans de vastes logements, il y a cependant un je ne sais quoi, en particulier dans un lieu inconnu, alors en sorte que s'empare alors de nous dans le plus petit espace, par exemple dans la salle de bain de l'hôtel, un sentiment de protection et de réconfort et que l'on peut à nouveau respirer. Aspirons-nous ainsi à des dimensions contraires, me demandais-je, à celles qui en vérité ne nous conviennent pas, ne nous sont pas appropriées, où l'intention de parler est réprimée, tonitruante, je peux tout m'imaginer à la fois. En fait, je peux tout m'imaginer, me figurer, vivre, tout l'imaginer comme réalité. Corbeau à trois pattes, les flèches du soleil claquer de partout, se refléter dans mon œil, douloureux éblouissements, iris, scintillations, fulgurants du soleil. Friederike Mayrhofer est morte en 2021. Elle fut longtemps sur la liste des Nobelisables, je pense en partie grâce à ce texte écrit en 1985, où elle traduit tout l'embarras de l'Europe à se construire aussi grande que le général de Gaulle avait pu la délirer. Car l'Europe de la tradition écrite, pour s'assumer réceptacle de l'Orient de la tradition orale et au-delà du verbe tomber de l'imaginal, doit se résoudre à être conçue aussi étroite que le siphon du tuyau d'évacuation d'une salle de bain. Le ruissellement, sinon venu de ce soleil, la noierait, l'éblouirait, c'est tout pareil, confusion. L'auteur, alors le vrai, se terre dans son petit coin, ici la viennoise, dans la salle de bain d'un hôtel de Ferrare, là le libano-canadien, dans son mini réduit perso top secret d'un appartement proche de la Marne, en amont de Paris, il s'y terre pour se taire, risque d'explosion, et filtrer dans le plus petit obturateur possible cette lumière, sinon aveuglement garantie. Ouf, l'auteur a écrit. Il a fait son métier d'auteur, le danger est passé. Quel filtre, mieux, quel paratonnerre bien affûté que le poète. Une plume, dit-on plus simplement. Plume d'ange, pour certains. Car l'Europe, oui, pourrait exploser à se vouloir aussi grosse que le délire importé par Dionysos. Ce soleil noir, noir à force d'être indéfinissable, l'Europe a toujours su le saisir avec des pincettes et en limiter sa portée à des petits isolats à la périphérie de la cité, à côté, par exemple, je ne sais pas moi, d'un cimetière comme le Théâtre de la Colline. Ou alors dans le lointain sud-est de l'Acropole, là où on permettra à Dionysos de s'ébattre un peu. Le pauvre diable ne sait toujours pas écrire, elle saurait-il, ivre comme il est, on prévoit l'enfermement. En Orient, l'enfermement ne se pratique toujours pas. Les fous ont leur couvert à table de la grande famille, et on les écoute religieusement quand ils causent. C'est ça qu'on appelle la tradition orale. L'Europe de la bourgeoisie triomphante ne la supporterait pas, aussi a-t-elle besoin de l'auteur pour s'en épurer. Manque de peau, il y a un métier terrible que l'Europe a inventé, malgré elle, au détour de la colonisation, orientaliste, que ça s'appelle. Depuis peu que la décolonisation commence à se construire pour de bon, l'Europe de la bonne conscience a tenté de se débarrasser du terme. Le CNRS ne recrute plus d'orientalistes. Le mot a même été barré de son organigramme. Alhamdoulilah. Mais cette bonne conscience n'empêche pas l'imaginal de survivre. Et pour survivre, il lui faut parfois prendre possession de quelques passeurs privilégiés. Des orientalistes, ces hommes voués à l'ombre par leur propre territoire et qui de ce fait sont appelés à connaître de manière privilégiée l'ombre qui se répand encore de Dionysos, le dieu de Nissa, l'épicentre de l'Orient en Afghanistan. Cet état de possession et par conséquent de dépossession de l'Européen qui était en moi est exactement ce qui m'est arrivé au détour d'un terrain d'ethnologie à cheval entre l'Inde et l'Iran, là où Alexandre avait naguère succombé à la folie. C'était il y a 33 ans, j'étais parti avec une caméra 16 mm, en disciple de Jean Rouche, qui m'avait appris la ciné-trans. Ciné parce qu'on n'écrit plus, excite Henri Corbin, on filme, et trans parce qu'on la vit soi-même, et hop, en plein la métaphysique. Quel saut dans le vide! Le miroir de ma caméra parviendra-t-il à faire un avec le miroir de l'imaginal, el mirat el rial? C'était mon pari. Pari gagné et pari perdu. Gagné parce que le hasard, objectif bien sûr, a fait que j'ai rencontré de vieilles femmes qui sacrifiaient des offrandes, galettes dorées comme le soleil, à Piresabs, l'ancienne, représentée par un pain de sucre vêtu d'une robe verte, tout au fond d'un sanctuaire improvisé dans une petite cuisine carrelée où le sang de la pastèque gicla quand une pucelle l'égorgea. Derrière l'œilleton de ma caméra, qui me propulse en double du soleil, lui donnant, moi recevant, des jumeaux, l'un céleste, l'autre terrestre, que vis-je? Une chose que je n'avais fait que lire jusqu'alors, lire comme ayant appartenu à un passé révolu, à un continent tout autre, à la culture aztèque, qu'un essai de Leclésio m'avait révélé quant à la fête de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca est le dieu de l'éternelle jeunesse, qui vient marquer de son sceau ses offrandes propitiatoires faites de farine de maïs, présentées en petits monticules au dieu pour qu'il y imprime son pied et témoigne ainsi de son incarnation chez les orangs. Ici, dans la cuisine des femmes zoroastriennes qui m'avaient accueilli, pas d'orans, mais des orantes, et moi grimée et travestie en femme, car les fées qu'elles appellent sont dangereuses pour l'homme dont trop souvent elles s'éprennent. Et pour diriger la cérémonie, celle qui sait voir et cherchera la trace de pattes d'oiseaux invisibles dans les coupelles où s'amoncellent diverses poudres céréalières. Celle qui sait voir est aussi celle qui connaît le dire propre à inviter une fée, un ange, l'oiseau-soie, dirait Wajdi, à venir porter de sa lumière depuis l'imaginal avec la trace laissée de son bec et de ses pattes dans les tas de poudres céréalières. Ce dire est constitué de contes incompréhensibles à l'oreille du non-initié, car proféré dans la langue secrète de ces femmes, elles-mêmes greffées sur un dialecte genré et générationnel, tenant l'oralité pour ce qu'il y a de plus spécifique et d'opposé à l'écriture qui, elle, prétend, si ce n'est à l'universel, au moins à l'intelligible. La diction de cette orante coule comme l'eau d'une rivière sans répit et sans secousse, un débit impossible à comprimer et ne témoignant d'aucun affect, pas d'emphase, pas de suspension, rien que la parole à l'état pur, pas de variation dans le tempo comme il en va pour la musique persane, ici une petite cuillère frappée sur un verre vide de moutarde servant de métronome. Cette bobine de fil dévidée, une grenade circule parmi les orantes, trempant dans un breuvage dit d'immortalité dont elles s'aspergeront la face, oh pas n'importe comment, mais face à un miroir. Le miroir même que l'orante, tout le temps de sa mélopée narrative, a tenu entre ciel et terre, captant d'en haut un flux de lumière et de sa bouche le flot de sa voix, comme pour faire un l'oiseau et le poisson. Les orantes, quand ce miroir qui tourne de l'une à l'autre, l'ont en main et dans l'autre la coupe de grenade, tout en soignant le visage de ce précieux liquide, disent « Miroir, fais que je sois la plus belle ». Leur visage s'éclaire alors d'une aura venue de l'imaginal. Fin de mon film. Fin tout court aussi, car pari perdu. Le ministère des Affaires étrangères, faisant mine de rapatrier mes bobines par la valise diplomatique, bloqua longtemps le film. Puis, quand le film restitué, le CNRS refusa d'en assurer la post-production. Le non-dit, mais si pesant que hurlait à mes oreilles, me serinait « Nos superstitions ont été éradiquées, pourquoi les réintroduire ? Qu'est-ce que la sociologie contemporaine va s'embarrasser à savoir si des contes orientaux servirent de modèle aux nôtres qui les inversèrent, du moins Perrault, dans sa version écrite des contes de la Merloie, en ravalant à l'état de reine de la nuit et de sorcière une vieille orante invoquant l'archétype de l'éternelle jeunesse, Piresabs, d'échanger cet attribut de la jouvence contre un peu de poudre de fruits secs ? Il y eut un front de refus. Pour ne pas m'entendre me porter l'écho de cette oralité directement branchée à l'imaginable. Je me suis longtemps interrogé sur le pourquoi de ce blocage. Et cette réflexion m'a conduit à creuser l'histoire de l'orientalisme. Y aurait-il eu avant moi d'autres passeurs européens pareillement dépassés par leur cargaison au retour de leur séjour en Orient, d'autres passeurs qu'on se serait empressé de faire passer dans les oubliettes de l'histoire? Oui, y en a-t-il eu? J'ai construit toute une œuvre sur cette thématique, car la pêche fut bonne. Des passeurs de lumière autour desquels, vite, le vide, l'Europe en compte un grand nombre. La France remporte peut-être la palme par son application à faire silence sur l'un de ses premiers orientalistes de terrain qu'aucun orientaliste de profession n'a jamais célébré. D'ailleurs, son nom ne vous dira rien, Il s'appelle « Pacifique de Provins ». Son histoire est si édifiante que la dire ici, la faire entendre pour la première fois, fera plus que lui rendre hommage. Ce sera exemplairement montrer en quoi se faire l'intermédiaire, et j'ai bien dit l'intermédiaire, non pas seulement l'exégète comme Henri Corbin le fut, de l'imaginal, vous expose, que vous le vouliez ou non, à un vide sidéral, comme si englouti dans le soleil noir qui se tient à la pointe ultime de l'imaginal. Et peu importe les acteurs qui vous ont précipité dans cette coulisse qui n'en est pas une, car à ce moment-là, il n'y a plus de rideau, plus de voile aucun, plus que le noir du soleil dans son état le plus brut. Vous avez voulu écrire pour témoigner ? Alors l'Europe, il y va de sa survie, de sa grandeur. Vous condamne à être un verbe errant avec pour seul ami cet archétype, le prophète prêchant dans le désert. Le vide se fait alors autour de vous et vous venez à le rencontrer. Pacifique de Provins, pour revenir à lui, est un homme du grand siècle. Jeune adulte quand l'Europe inversa la course du soleil et entreprit de se répandre en Orient plutôt que de recueillir sa lumière. Il était capucin, de l'ordre de se coiffer d'une simple calotte pour signifier leur vœu de pauvreté. Or les capucins, Anne d'Autriche, Finguep, se servit d'eux comme ses premiers émissaires en Orient, parce que hommes imposant le respect et semblant dégagés de tout intérêt matériel. Oh la ruse ! C'est ainsi que le père Pacifique de Provins embarqua de Marseille en 1622. À peine débarqué à Istanbul, Pacifique fit la droit à ce qu'il nomme le temple de Sainte-Sophie, un peu chagrin que ce soit devenu une mosquée, avant de se raviser. Il y a là deux docteurs qu'il gratifie de ce grade de docteur, les sortant ainsi de la déconsidération que charrient les termes si chargés de frissons « imam » et « molla », les mettant même plus haut que de simples prédicateurs, parce que foule cosmopolite, embrasement mystique autour d'eux, et Pacifique d'écrire « Ces merveilles de voir l'action de ceux qui écoutent. Cela fera perdre la folle et vulgaire croyance qu'ont les Français qu'il n'est permis à personne d'entrer dans leur mosquée et que qui le fait, il faut qu'il meure ou qu'il se fasse turc. Je ne sais avec quelle hardiesse d'aucuns l'ont même écrit, je crois que parce qu'ils n'y ont point été. » Rendu conscient donc qu'il y avait supercherie, que l'Orient n'était pas la terre des infidèles qu'on lui avait dit, mais de gens actant dans leur comportement la parole qu'il était censé venir leur apporter, jouissant même d'une lumière que l'Europe chercherait à endiguer, Pacifique s'enfonça plus avant en Orient, maintenant dessillé et pénétré d'un esprit de découverte plutôt que de conquête. Certes, résolu encore et semé son itinéraire de maisons témoignant de la pauvreté de son ordre, mais à prêcher pour convertir ne trouvant plus nécessité, devant la découverte qu'il venait de faire. Un chrétien n'est pas chrétien tant qu'il ne considère pas qu'un non-chrétien peut parfois le dépasser en chrétienté. C'est l'appel du vide. Sage de cette résolution, il entra en Iran où il fut traité en invité d'honneur, en protégé de marque, lettre royale à l'appui, où Shah Abbas recommandait les capucins à ses sujets comme des soleils. Banqué par ce même roi, lui fut offert, avec toutes les viandes sacrifiées, en plus de la pastèque. Pacifique, qui honneur se faisait par imitation du Christ, de voyager sur sa mule et de loger là où elle logeait, refusa des mains du roi le traitement dû à son prestige d'homme de Dieu. Seulement, puisqu'il n'était pas aveugle concernant la qualité surnaturellement excessive dont doit s'envelopper tout don pour échapper au misérable troc que la nature humaine sinon déploie, Pacifique consentit sur deux points. « Puisqu'il veut être traité comme son âne, avait dit de lui Shah Abbas, eh bien qu'on apporte à son âne mes meilleurs vins. » Ce qui fut fait. Puis qu'on transporte ensuite sa litière dans l'enclos que je lui réserve, enclos aussitôt bâti. Ah, c'était un véritable domaine et de valeur inestimable, reconnaît Pacifique, qui ne logea jamais dans palais plus somptueux. Il était loin pourtant, le temps du roi Cyrus qui protégea les Juifs, du satrape Crésus, proverbial pour sa générosité, du mage mythique appelé Gisbor, le porteur du trésor, et qu'il avait déposé au pied de l'enfant dans la crèche sous la forme d'encens. Car nous sommes alors dans la Perse de 1628. Rien pourtant n'avait été perdu de ce que les ethnologues appellent le potschlak, un don tellement plein et déversé pour rien d'autre que sa consommation dans un feu de joie, sa consommation dans un instant d'ébriété, qu'on en dirait une apologie du vide. Ainsi, à la cour de Shah Abbas, un soleil plein d'ardeur continuait à dicter oralement sa loi, comme du temps de Persépolis, où le lever du soleil à l'équinoxe vernal vient toujours se glisser à l'occasion de son renouveau saisonnier qui génère moult offrandes, le Nowruz, dont ce 18 mars est l'avant-veille. C'est pourquoi l'or ne servait toujours pas dans cette perse de Abbas à marchander, mais à estimer au sens de montrer son estime. Contaminé par nos conventions commerciales, notre capucin désapprouve d'abord, sans bien y réfléchir, ce roi de Perse, qui le peu de l'or qu'il a, le fait fondre pour en faire de l'art. Des objets somptueux qu'il enrichit de pierreries et qu'il offre selon son bon plaisir et comme si de rien n'était. Pacifique se récrie. « Ah, l'or chez nous est utilitaire !» Utilitaire. Cela laisse songeur un temps à Boss assombri à l'idée que le roi de France puisse être plus riche que lui. Quand Eureka, plus riche, mais je fais beaucoup mieux. Ce mieux est entièrement qualitatif. Il montre que l'expansion économique de l'Europe fut davantage le résultat d'une décision unilatérale que d'une compétition internationale. Le roi poursuit. Mon cousin Louis XIII n'en fait pas des vaisselles, mais de la monnaie. Des pièces si petites qu'à les compter, on prend peur d'en perdre, et sur cette crainte, l'avarice peut proliférer. Autre défaut aussi, ma libéralité, qui, mésestimant la valeur de ces petites pièces en or pour peu que j'en ai en main, me ferait les jeter à tout va sans épuiser mon contentement, alors qu'un bel objet en or satisfait et le donateur et le donataire. Des paroles aussi sages ne restèrent pas lettre morte chez Pacifique. Il s'appliqua, aussitôt de retour à Paris, dans sa petite cellule, rue Saint-Honoré, à donner corps par écrit au pays de l'imaginal qu'il venait de traverser. Quelles furent les réactions à sa relation du voyage de Perse? Ben, les mêmes que pour mon film. La cabale montée contre Pacifique fut de taille. Toute la hiérarchie, son livre encore même pas sorti des presses, s'y accorda. On contraignit le père à désavouer ce qui avait été écrit, à imputer la paternité de cette théologie suspecte à l'audace de l'éditeur qui, menacé à son tour, inséra un avant-propos réclamant l'indulgence du public pour un ouvrage publié sans les révisions de son auteur, dit-il. Amendement louable, mais jugé insuffisant par les censeurs de la Sorbonne. L'ouvrage fut retiré des ventes. Quant à Pacifique, lui qui rêvait de retourner en Perse, on le pria d'aller missionner du côté des mers des Caraïbes. Notre administration lui fit sentir un impérieux va-voir dans le Nouveau Monde si j'y suis, aussi catégorique que le soufflet reçu par Wajdi et les siens en 1983 de la même administration, Intiqala min Baris illa min Tirial. Ne pleurons pas, enfin, je veux dire, ne boudons pas notre plaisir, car ce qui naît de l'exil occidental ainsi subi, ce petit plus qui vous permet de toucher le vide et qui fait de vous un créateur, ça s'appelle précisément la douleur. Si leur rhumatisme aidant, dur alors de s'accroupir et de s'entasser l'une sur l'autre dans un 5 mètres carrés, à même le carrelage d'une cuisine, les articulations craquent, mes orantes zoroastriennes n'avaient pas ressenti dans leur chair la douleur de vieillir. Jamais elles n'auraient sacrifié à Pire et Sabs, leur double céleste, car la traduction littérale de cette entité est la vieille verte. Il en va de même pour le poète. S'il ne ressentait aucun exil, le double céleste lui semblerait une chimère et le contactait un appel inutile, comme si aux abonnés absents. Les poètes d'Iran savent que la ligne téléphonique existe. Ils la maîtrisent très bien. Ils ont même, pour ce faire, conçu un instrument émetteur-récepteur épatant, qui s'appelle le ney. Il s'agit d'une tige de roseau avec des trous dedans. On appelle ça aussi une flûte. Pour émettre, on utilise son souffle, l'organe de l'oralité, et pour émettre un son qui fasse sens, on passe par un maître qui vous enseigne des gouchers. Séquence mélodique. Gouche en persan, c'est l'oreille. Mais ne nous satisfaisons pas de l'oreille. Elle reste un organe à la surface, un indice, que c'est bien de tradition orale qu'il s'agit, mais un indice simplement pour ceux qui se contentent de la surface, de l'apparent, car en vérité, le siège de la tradition orale, pour un Iranien, n'est pas l'oreille, cette feuille de chou, mais ce qui en constitue le cœur, à savoir le cœur, d'elle. Aussi, un enseignement initiatique tel que la flûte est un enseignement d'elle, d'elle, de cœur à cœur. Parce que seul le cœur saigne vraiment et parce que seul le flux sanguin est capable, par ses turbulences, d'émettre le souffle. Aussi, de manière plus profonde, le terme de goucher, pour désigner une séquence mélodique, renvoie moins à l'oreille gauche qu'au coin. Goucher, le petit coin. Ce même petit coin, guère plus grand qu'une cabine téléphonique, la salle de bain de la chambre d'hôtel d'une poète viennoise fascinée par l'Italie, le réduit écritoire de l'appartement suburbain d'un dramaturge libano-canadien obnubilé par l'Hélénie. La cellule d'un capucin en plein Paris se révente en pleine Perse, la cuisine oratoire d'un rez-de-chaussée à Grant Road, Mumbai, d'une rente nostalgique de l'Iran, que des lieux resserrés et propres à faire macérer le sentiment d'exil que cette poète, ce dramaturge, ce père et cette rente partagent chacun dans son coin. Le plus exilé de tous, parce qu'il connaît l'exil intérieur, c'est celui qui a pour archétype président à sa destinée le prophète prêchant dans le désert. Et pour lieu de résidence, le petit coin le plus isolé du monde. Pour désigner ce genre d'ermite, le persan a un mot, gouchegir, celui qui s'en va nicher dans son coin. Et parce qu'assis là, à l'angle, il occupe une place privilégiée, la place de la pierre rejetée, de la vérité voilée, de la manière dont s'exprime à nous l'imaginal pour nous emboucher un coin, le parler par allégorie, la parole parabole. Goucher d'or a cette signification, littéralement ce qui est énoncé du coin de l'évidence, c'est-à-dire très loin de la logique terre-à-terre. Si bien qu'il faut entendre la séquence mélodique du goucher comme une parabole branchée en direct sur le siège des paraboles préexistantes, l'imaginal, car un angle se forme, là, entre ces deux mondes. Le meilleur joueur de Ney se trouve être celui qui sait enchaîner tel goucher à tel autre, à tel moment de la journée, pour maintenir la connexion avec la source dont il pleure l'exil, de même le poète avec les perles de son collier. Il y eut dans l'histoire de l'Iran un grand poète, qui fut aussi un grand joueur de Ney, si grand que les Iraniens l'appellent Maulana, notre Seigneur, et qu'en Europe nous connaissons davantage sous le nom de Rumi, qui désigne celui qui vit dans la Rome, ici à comprendre comme la nouvelle Rome, Byzance, car ce natif d'Afghanistan migra sous la poussée mongole il y a 9 siècles en direction de Konya. Ce poète mit le doigt sur pourquoi le Ney faisait lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Tout simplement parce qu'il avait poussé dans un marais et que l'eau partage avec le ciel le fait d'être un liquide de couleur vert bleu. Mais cette caractéristique ne suffit pas, sinon quid de la douleur. Le bout de roseau qui est devenu flûte a été coupé de la roseraie. Oh oui, permettez-moi une incidente. Roseraie était le nom où les roseaux poussaient, avant qu'ici en Europe, on ne les remplace par ce qu'on appela des roses venues d'Orient, bien évidemment. Et cette flûte coupée de la roseraie pleure l'élément qui l'a vu naître, l'eau, le jumeau d'en bas, et son pleur s'élève jusqu'à l'air, le jumeau d'en haut. Voilà la téléphonie symphonique que les Iraniens ont su nous donner à partir d'une racine coupée de son sol, car il n'y a pas de liaison possible sans coupure préalable. Ce que les communicants ne savent pas, mais que les créateurs savent très bien. C'est pourquoi un communicant se suffit de son verbiage. « Bon vent, bod », lui dit alors Rumi, car en vain son souffle gaspillé. Là où un créateur prétend au verbe qui soit langue de feu, « otash », ce verbe ne s'adresse pas à l'oreille, mais au cœur. Et Rumi, dès le premier vers de son Masnavi, le dit bien haut. Écoute du Ney l'histoire qu'on en tire, la douleur des exils, telle est son expire. En échange de cette douleur, l'encre coule. Une encre que le Coran nous garantit comme de plus grande valeur que le sang des martyrs. Et c'est ainsi que les fables, naguère orales, furent écrites et que toutes les anecdotes arrivant dans ce monde sont à leur tour écrites. Ceci depuis qu'il y a des alphabets capables de renfermer dans leurs lettres toutes les subtilités de l'imaginal. De tels alphabets ne servent pas à communiquer. Il faut des créateurs pour en établir les règles. Les règles, ou plutôt les angles. Voilà une piste à suivre. Mais avant, rendons à César ce qui revient à César, les peuples iraniens, très bons téléphonistes directement branchés à l'imaginal, on vient de le voir, ne se sont jamais donné la peine de forger un alphabet dont ils trouvaient plus d'inconvénients, casser une mémoire orale acquise d'elle, bédelle, que davantage. Question écriture, ils s'en sont toujours remis aux sémites. L'alphabet araméen a servi à écrire l'avestique et le moyen perse. Quant à la langue persane, elle émergera, sitôt écrite, par le biais des lettres arabes. L'alphabet arabe, de son côté, n'est pas antérieur à la langue arabe. Celle-ci naquit du verbe de Dieu entendu dans une caverne par un bédouin qui s'appelait Mohammed. Il était prophète, non pas philosophe, comme Platon aussi. Au lieu de se croire enchaîné dans le noir de l'ignorance, il se sentit habité par une connaissance suprahumaine qui le terrorisa tant qu'il courut se réfugier au plus vite dans la couche de sa femme. Celle-ci lui apprit à ne plus avoir peur de la voix qui lui disait « Oul, dis ». Alors Mohammed colporta le message et l'islam se cantonna au domaine du « dire ». Avant qu'un alphabet ne vînt coller à cette métaphysique. Mais revenons un peu en arrière, et à cette flûte de roseau joignant les eaux d'en haut aux eaux d'en bas, le Ney. Il suffirait de se servir de son bec comme d'un embout. J'en ai un. Il suffirait de se servir de son bec comme d'un embout, de loin ça ressemble à une flûte, mais il n'y a pas les trous. C'est un calame, ça sert à écrire. Kalam, le mot est latin. Et les Arabes l'empruntèrent d'autant plus volontiers, kalam, ça devient chez eux, qu'ils venaient constituer dans leur lexique un magnifique jeu de mots avec kalam, le verbe par excellence. Ce qui nous permet de revenir à Moïse et à son buisson ardent, prophète appelé dans le Coran kalam Allah, le verbe de Dieu, et qui, dois-je le préciser, avait été trouvé parmi des roseaux sur le bord du fleuve. Écrire avec le roseau du Ney au lieu de souffler dedans sembla donc le moyen le plus sûr de rester en contact avec l'imaginal. Mieux que ça, la première lettre de l'alphabet devrait figurer la verticalité de ce Ney, de ce kalam, pour assurer dans l'écrit la puissance de l'oral. Ouais-je dis, puisqu'avant même de savoir écrire, vous saviez peindre, sans le savoir. Merci de vous lever, de vous saisir d'une craie et de tracer au tableau le schème quasi hiéroglyphique du Ney, du kalam ou de la flûte à bec ou de la kalachnikov, si vous préférez, telle qu'elle est tenue en main. Mais le kalam, c'est bien mieux. Voilà. Ce qui vient d'être écrit comme un slash se lit 1 en chiffres latins. Il y a comme un accord subtil venant de se créer avec notre Ney, qui est le sceau d'une jonction possible entre ciel et terre. Cette jonction ainsi symbolisée fit tilt chez le créateur de l'alphabet arabe. Ce sera la première lettre de son alphabet, alif, parce que celle qui permet au verbe de s'incarner, et elle s'écrira toujours de haut en bas, du ciel à la terre, parce que l'unité est avant tout une qualité venue du vide. Aussi, cet alif qui nous tombe du ciel a aussi la valeur numérale de 1. Les Romains, quant à eux, n'étant pas de grands spécialistes de l'unité, ont beaucoup divisé pour régner, ont aussi beaucoup trafiqué, frappé davantage encore de monnaie, les petites pièces qui n'étaient pas du goût de Shoabas, eux, ils s'en régalaient, ils les chérissaient, en rois de la comptabilité qu'ils étaient, et s'embarrassant si peu de l'unité qu'ils la démultiplièrent aussitôt. Vois-je dit ? Merci de tracer à présent en chiffres romains un 2 et un 3. Bien. L'étudiant avait peut-être raison, hein, vous écrivez dans le sens de l'écriture arabe. Ça perturbe un peu. Bon, nous tenons maintenant les bases de l'alphabet arabe pour écrire le mot qui importe le plus à la métaphysique, le mot qui va sacraliser la feuille de papier. Toute la gageure du créateur de notre alphabet arabe sera de redonner de l'unité à cet éparpillement quantitatif du 1, du 2, du 3, toutes ces petites barres séparées, et cela ne sera rendu possible que s'il écrit avec ce même matériau, comme pour le transcender, le nom de l'unique, qui est un non-nom, puisqu'il est simplement dit le Dieu, Allah, et l'écrire en caractère anguleux, puisque le coin sera le point d'incidence entre l'imaginal et le futur écrivain, comme le miroir chez mes dames de Bombay. Cette écriture anguleuse fut l'écriture monumentale des premières mosquées du monde islamique. On l'appelle koufik. Et c'est dans de tels caractères que, vois-je dit encore, va nous écrire le nom d'Allah. Alors on va adapter ça, on va faire alif d'abord. Voilà, en caractère koufik, on va rajouter un lam, donc c'est le 2 qui va être, les deux barres vont être réunies en une seule et en un angle, hop, puisque c'est Allah, il y a un second L, il va dire bien le chiffre 2, donc on en fait un deuxième, qu'on prolonge comme ça, et ensuite, eh bien, il y a le fameux 3, qui va être réuni en 3 barres, et qui va nous faire le ha, la lettre finale, et voilà Allah qui a été fait, et qui a réuni les parts. Bien. C'est de la transcendance. Alors, vous avez vu qu'à la fin, il y a un petit cube assimilable à la pierre rejetée dans son coin. Donc ainsi, l'archétype de Dieu, sur le plan de l'imaginal, a pu être écrit avec autant de force que son verbe oral en comprend, Allah, en un seul mot. Et en l'occurrence, ce nom de Allah, le Dieu, est celui qui permet de décoder la métaphysique de racine carrée du verbe être. J'imagine que beaucoup ici ont vu le spectacle, je ne vais pas le résumer, mais bon. Ou si, on va faire un résumé métaphysique. On va faire la métaphysique de racine carrée du verbe être. Alif, ce trait de lumière invisible, slash, qui foudroie l'espace incréé, mais si élémentaire pour notre survie que Henri Corbin l'a appelé Axus Mundi, où se trouvait-il sur le plateau de la colline ? Pas en plein centre, juste entre les acteurs et le public, déployé dans toute sa hauteur. Juste fallait-il avoir des yeux pour le voir. Et encore, un acteur n'avait de cesse de le montrer, de s'inquiéter de son sort, de veiller à sa verticalité. Car voyez-vous, certains voulaient s'en débarrasser. Les édiles d'une municipalité du fin fond de la Seine-et-Marne, pas très loin de chez moi d'ailleurs, et heureusement, la fille du maire réunit autour d'elle une bande de jeunes qui militent en faveur du Halif, et elle y croit tellement qu'embrasée par cette cause, depuis le public, j'ai même cru apercevoir quelques feuilles de verdure bruire au sommet de cet Halif invisible. Car oui, c'est d'un arbre dont il s'agissait, un arbre surgi de l'imaginal et du lointain Orient, en l'occurrence la Chine, et que Wajdi avait planté pour pilier de son décor. Maintenant que nous avons trouvé l'alpha, alif, cherchons l'oméga. Alors la dernière de l'alphabet là, le ha, le petit cube de racine carrée du verbe être. Donc on a eu la racine, maintenant on cherche le carré. Bien, alors autant l'alif imprime sa rectitude dans l'invisible, autant le A, bah, il rassemble une vie condensée dans un petit espace, une vie comme terrassée par le crime qu'elle vient d'accomplir, car pisser de la copie, c'est comme faire pisser du sang, même combat gratuit, sublime et terrifique à la fois. Et dans la pièce de Wajdi, interprétant le A, voici Taliani, replié sur la chaise de sa cellule aux USA, et j'ai bien dit Taliani, pour signifier qu'il vient d'Italie, alors qu'il aurait pu tout aussi bien se nommer Italiai. Mais là, il aurait fallu un alif à l'initiale. Et de cet alif, Taliani doit en être privé, car demain, il sera condamné à mort, tout recroquevillé sur lui-même et mis dans une petite boîte. Convoqué à la police, le sera aussi l'artiste peintre. Un autre Taliani, établi, lui, à Montréal, parce qu'il a mordu jusqu'au sang la mondaine, refusant d'admettre que le cercle, une autre manière de faire le ha-arabe, ça c'est de l'écriture nastaliq, elle plus cursive, que cet artiste avait tracé autour de lui, était aussi sacré que la cellule d'un renonçant. Entre ces deux extrêmes, l'alif et le ha, la racine et le carré, la pièce de Wajdi déploie son balancement avec ses hauts, ses bas, ses déchirements, ses retrouvailles, son double lame. Vous voyez le lancement. Ses allers-retours aussi, entre Beyrouth et Montréal. Et le pari qu'on aurait pu croire impossible, si nombreux sont ceux qui s'y sont cassés les dents, plus nombreux encore ceux dont on a cassé les reins, a été remporté. Wajdi, en trouvant ici, dans Racine carrée du Verbeck, le point de rencontre entre le théâtre européen dans sa mise en scène la plus contemporaine et les archétypes les plus archaïques de la grammaire arabe de l'imaginal, a tendu la main de l'Orient vers l'Europe, a donné le meilleur de ce qu'un Libanais pouvait nous donner. Maintenant, il reste que l'Europe accepte ce don de l'Orient ou non. Wajdi m'a désigné aujourd'hui devant vous comme ami le plus à même à représenter l'Europe du oui. Ce rôle de passeur orientaliste, il m'a fallu l'endosser, en pesant combien le contre-don devait s'élever à la hauteur du don pour que la rencontre ait lieu. Une rencontre, tout le monde en conviendra, impérative, car si l'Europe veut enrayer le lent cycle conduisant au pourrissement de nos sociétés percluses dans leur dédain de la qualité, alors qu'il serait si simple de convenir que moins par moins, ça fait vraiment beaucoup de moins, que 1 plus 1, ben, ça fait encore plus 1 que 1, que se regarder dans le miroir, non à l'affût de la seconde ou de la troisième ride au coin de l'œil, mais l'œil plongé dans l'œil de la source, sans avoir d'autre possibilité que se dire alors « je suis belle », l'Europe renouerait avec ce qui en fit une très bonne et une très prestigieuse culture écrite. Cette Europe-là a existé. C'est l'Europe du bas Moyen-Âge, l'Europe des premières renaissances. Car l'Europe médiévale qui vient d'emprunter aux Arabes la manière indienne d'écrire les chiffres pour en finir avec l'esprit d'accumulation des petits sous chers aux Romains, et à une barre je rajoute une barre, et à une autre barre j'en rajoute encore une, non. Maintenant le zéro prime, le vide posé en absolu, en signe d'une grandeur incommensurable. Croyez-vous que cette Europe allait rester insensible à la nouvelle manière de charger en sacré l'écriture ? Grand Dieu ! Elle a compris que ce que Allahu Akbar voulait dire, grand Dieu, tout simplement, sans emphase monothéistique, sans terreur imposée à l'homme, juste un maître étalon servant à bien se mesurer soi pour bien accueillir le soi au travers l'imaginal, désormais piégé dans un mot qui le retient, enserré dans un petit coin, le Dieu Allah. À mon tour, donc, crée en main de tenter ce même exercice de rencontre de nos deux mondes, dont le voyage aller fut réussi par Wajdi, qui vient de sacraliser le 1, le 2, le 3 des Romains, par les trois actes de sa pièce Racine carrée du verbe être, qui donne corps au nom d'Allah. Vais-je réussir, quant à moi, le voyage du retour ? L'alphabet latin va-t-il accepter cette greffe de l'imaginal via l'alphabet arabe ? Une écriture s'y est essayée par le passé. Écriture faite aussi de longues verticales venant croiser quelques lignes horizontales. Est-ce qu'un calque de l'arabe dans cette manière d'écrire, dite gothique, aurait alors été tenté ? Essayons. En se mettant sous les auspices des premiers octosyllabes d'un des premiers romans non latins qui forgèrent notre Europe moderne. Il s'agit du roman d'Alexandre, vieux du XIIe siècle, roman puisé aux sources de l'imaginal, puisque des romans ainsi titrés, en persan ça donne Iskandar Nome, la Perse en compte plusieurs et antérieurs à ce roman d'Alexandre. Roman enfin où se trouve insérée cette prière. Est-ce vos ou nos poucelles qui la poignant venoie, sur un destrier d'arabe qui court à grand exploit. Quand elle voit la roine, gentement il disoie, Jupiter est grand Dieu, qui haussier et loin voit, saute et garde la roine, si comme et faire le doigt. Voici venir une jeune fille au grand galop, sur un destrier d'Arabie, qui fit la vive allure. Quand elle voit la reine, elle dit respectueusement, Jupiter, le grand Dieu qui voit loin, de son siège élevé, sauve et protège la reine comme il se doit. Est-ce que l'Arabie va voler au secours de l'Europe et prier Jupiter, le Père Ciel, Allah, de nous assister? Voyons et prions avec la pucelle que cela soit vrai. Le 1 des chiffres romains, je le trace à mon tour. Et pour peu que je veuille le lire en lettres, il apparaîtra comme un. Il y a un I qui peut se lire J également. Les deux étaient valables, ce qui donne Johann, Johann, etc. Il n'y a pas de problème. Jacob, Jacob. Passons maintenant au chiffre 2 des chiffres romains. Puisque le créateur de l'esprit des lettres gothiques ambitionnait l'unité, bah, il va recoller les morceaux de cette figure éclatée et ça va nous donner un O. Ensuite, il fit de même pour le 3 qu'il réunit. Alors, on va toujours faire, il y a toujours les petites barrettes en haut, horizontale. Ça va donner ça en lettres gothiques. Et là, nous avons les trois lettres qui servent de modèle à bâtir toute l'écriture gothique. Si on le lit, en un seul mot, ça va donner Yom, qui en hébreu comme en arabe signifie le jour. Ainsi, la lumière commence à poindre, le ciel à se donner. Mais ce que nous cherchons davantage encore, c'est le jour derrière le jour, la nuit de l'imaginal. Pour ce faire, il faut lire le vide et considérer ces trois lettres comme I-O-M, de simples initiales, de mots suggérés. Ainsi en firent les hommes du Moyen-Âge. Et pas que, puisqu'Alfred Durer, au XVIe siècle, en faisait encore de même. Cela donne, et c'était la devise, donc, on apprenait ça aux petits écoliers, la sentence suivante, répétée de génération en génération, « Jovi, optimo, maximo ». Jovi, c'est du datif, pour Jupiter, donc à Jupiter. Et quelles sont les qualités qui sont attribuées à Jupiter ? Eh bien, optimo, être très bon, et maximo, être très grand. À Jupiter, le très bon, le très grand, c'est exactement la prière qu'on a trouvée dans le roman d'Alexandre. Et nous voilà aussi en présence du calque de l'arabe, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le très bon, le très miséricordieux. Ainsi, le nom d'Allah, la cartouche même du vide dans l'imaginal, se trouve présent en creux dans notre écriture latine en caractère gothique, à nous autres, Européens. Belle pêche, ouais, je dis. La greffe est prise et la rencontre peut avoir lieu.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.